Nouméa connaît cérémonie du 11 novembre, rencontre avec les responsables des institutions. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet ont multiplié les entretiens au premier jour de leur visite. Page spéciale dès le début de ce journal. 7 personnes placées sous contrôle judiciaire sur réquisition du parquet la semaine dernière. Elles avaient été déférées à la justice pour menace de mort au préjudice de la famille Metzdorf. La métropole s'apprête à commémorer le 11 novembre 1918. Les cérémonies se dérouleront en présence du Premier ministre britannique Keir Starmer. Il est l'invité d'honneur de ce 106e anniversaire. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé jeudi dernier. Le futur président américain aurait demandé au président russe de ne pas provoquer d'instabilité supplémentaire. Et puis en sport, la fin des championnats de Nouvelle-Calédonie de golf. À 18 ans, Jules Guépy a décroché le titre 2024. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Une séance solennelle demain matin au Congrès. Ce sera l'un des temps forts de la visite de Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Devant les élus du boulevard Vauban, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale prononceront chacun une allocution avant un temps de travail à huis clos avec les élus. Ils poursuivront cette deuxième journée de visite par un déplacement au Mont-d'Or en navette maritime, Mont-d'Or Sud. Sur place, ils pourront échanger avec les habitants et avec le maire de la commune, Eddy Le Courrieux, avant de revenir à Nouméa pour une rencontre avec les Calédoniens à la mairie. Écouter, échanger, c'est le maître mot de leur déplacement. C'est ce qu'ils ont rappelé l'un et l'autre à plusieurs reprises, et notamment lors de leur première prise de parole. C'était ce matin à l'issue de la cérémonie de commémoration du 11 novembre, place Bir Hakeim, premier rendez-vous des 3 jours que va durer leur visite.
On est arrivé cette nuit avec le président du Sénat. C'est une visite qui, pour nous, est extrêmement importante. Nous sommes conscients des enjeux. Nous sommes venus en tant que président de chambre, élu, pour voir et échanger avec d'autres élus. On voit que nous étions attendus et là, nous venons juste d'échanger avec quelques citoyens qui nous disent à quel point ils sont heureux de nous voir ici en Nouvelle-Calédonie.
Pour l'instant, c'est écouter, c'est ça?
Oui, d'abord, c'est un peu exceptionnel que nous soyons ensemble, non pas du tout que nous ayons des rapports distants, mais que nous soyons ensemble à une date symbolique. Nous venons de partager la mémoire du 11 novembre. Et quelque part, dans le chemin de coutume, c'est le souvenir de nos anciens, de ce qu'ils nous transmettent et des valeurs dont nous devons être aujourd'hui, j'allais dire, l'expression. Et dans ces valeurs, il y a la valeur de la paix retrouvée. Il y a la valeur de la concorde, il y a la valeur du partage. Nous sommes là avec humilité pour écouter.
Faire de rêve un rêve partagé, c'est le message de Gérard Larcher. Ensuite, lors de la coutume d'accueil au Sénat coutumier à Nouville, le président du Sénat s'est adressé à ses collègues sénateurs coutumiers en rappelant que le Sénat est un symbole de paix et de sérénité.
Nous venons tous deux avec humilité pour écouter, pour partager, pour, comme cette natte, tresser entre nous ce qui va nous permettre de nous asseoir ensemble et de partager autour de la nappe. Je n'oublie pas que depuis Matignon jusqu'à Nouméa, qui vit la naissance du Sénat coutumier, votre rôle est important. Vous devez contribuer à ce que nous souhaitons, le dialogue pour la paix retrouvée, pour la sérénité, et la conjugaison de deux rêves qu'il n'est pas impossible de faire conjuguer. C'est en tous les cas faire de deux rêves un rêve partagé. C'est un enjeu majeur.
Lors de sa prise de parole, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a mentionné avec émotion sa dernière venue en Calédonie, où elle s'était rendue à Tiga pour se recueillir sur la tombe du tirailleur Kalepo Wabet. Les deux présidents de chambre se sont ensuite entretenus dans l'hémicycle avec les sénateurs coutumiers. Et à l'issue, Éloi Goé, le président du Sénat coutumier, s'est dit satisfait de ces discussions.
Compte tenu de ce bilan mitigé de l'accord de Nouméa, nous avons remis un document sur le schéma de l'ADN, donc avec une réécriture du préambule qui fait quand même les constats des manquements, avec un contenu sur les pistes sur lesquelles on doit se diriger. C'est notre contribution auprès de nos élus responsables politiques pour participer à, comme ils disent, le grand accord qui a lieu. On a été, des oreilles attentives quoi, de la part de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Ils sont prêts à nous accompagner, nous entendre, faire en sorte que les erreurs du passé ne se reproduisent.
Éloi Goé, qui avait prononcé un discours très politique en accueillant Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet. Il a par ailleurs répété que le Sénat coutumier souhaite avoir sa place dans les discussions sur l'avenir institutionnel. Et il a proposé une prorogation de 5 à 10 ans de l'accord de Nouméa avec, au terme, un référendum d'autodétermination. Un début de journée très dense donc pour les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale qu'ils ont poursuivi par une rencontre avec le président du gouvernement et le gouvernement pour un entretien consacré exclusivement au plan S2R, puis un entretien avec la présidente du Congrès. Direction ensuite la province Nord avec 2 rendez-vous programmés, Léana Colombo.
Oui, à peine descendu de l'hélicoptère qui les a emmenés jusqu'à Koné, les deux présidents des chambres se sont rendus au monument aux morts de la ville pour une cérémonie de l'armistice. De nombreuses personnalités étaient rassemblées. On citera notamment le sénateur Georges Naturel, le député de la seconde circonscription Emmanuel Chibaou, Yann Peraldi, le maire de Pointe-Bout, et Patrick Robert, adjoint au maire de Connay. Une cérémonie qui s'est conclue comme traditionnellement avec un dépôt de gerbe. Et à l'issue de cet hommage, le président du Sénat, Gérard Larcher, a tenu à rappeler l'importance du 11 novembre. Il a aussi évoqué l'état d'esprit dans lequel il venait rencontrer les personnalités politiques de Calédonie.
D'abord, on a voulu par un temps de mémoire, parce qu'il nous semblait qu'un 11 novembre, c'était l'occasion de se souvenir ce que nous devions à tous ceux dont les noms sont ici, ces plaques, et qui ont donné leur vie pour notre liberté, pour notre pays. Et dans une terre si attachée aux anciens, à ce qu'ils transmettent, ça nous semblait un geste extrêmement important. Puis nous sommes venus, la présidente de l'Assemblée nationale et moi-même, ça n'est pas si fréquent, puisque c'est une première, pour être tout simplement dans un esprit d'écoute, d'humilité, pour essayer de contribuer à retrouver le chemin de deux rêves qui sont séparés et qu'on voudrait voir converger. Et c'est ce à quoi nous travaillons.
Une démarche d'écoute pour trouver un chemin commun, c'est ce qu'a confirmé la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.
Tout se passe très bien pour le moment. Tous nos interlocuteurs se satisfont vraiment de notre venue. On a le sentiment, l'espérance peut-être, que c'est le bon moment. En tout cas, nous ferons tout pour que ce soit le bon moment. Il n'y a pas de tabou. Nous sommes libres, nous sommes indépendants, nous sommes des parlementaires, des présidents de parlement. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tout entendre pour essayer de tracer avec les principaux intéressés une feuille de route, un chemin. On sait que la Calédonie sort d'une période très intense de crise, il y a beaucoup de souffrances de part et d'autre. Il y a beaucoup de chemin à faire pour revenir sur de l'apaisement et c'est aussi cela que nous sommes venus porter. Mais en tout cas, porter une parole d'écoute et de grande attention à la Nouvelle-Calédonie. Quand on est très très loin de l'Hexagone, on se dit qu'on nous oublie. Eh bien non, on n'oublie pas la Nouvelle-Calédonie. Elle compte pour la France, elle compte pour la République, elle compte pour les parlementaires que nous sommes.
Pour tenter de trouver une voie future de dialogue et évoquer les problèmes liés au nickel, les deux présidents des chambres se sont ensuite rendus à l'hôtel de la province Nord pour y rencontrer son président Paul Nyaoutine. La natte tressée, symbole de destin lié, a été longuement évoquée lors de la coutume d'accueil. Le président de la province Nord a d'ailleurs répété vouloir continuer les discussions sur l'avenir de la Calédonie avec l'État, mais que tout restait encore à faire. Gérard Larcher a ensuite fait part de son admiration pour l'homme qu'est Paul Nyaoutine.
Je suis vraiment très heureux de vous retrouver, Monsieur le Président. On se connaît depuis longtemps et je dois dire qu'en vous retrouvant, c'est quand même une personnalité un peu exceptionnelle que nous rencontrons. Vous êtes une personnalité forte qui vous exprimez fortement, y compris parfois contre la violence. Et je voulais rendre cet hommage, ce souvenir tout à fait particulier d'un communiqué que vous avez fait, parce qu'il y a des femmes et des hommes de courage dans les moments difficiles, et vous êtes de ceux-là. Il y a deux rêves dans cette Nouvelle-Calédonie. Ces rêves, si on cessait un moment de les opposer pour essayer de les faire converger, et je pense qu'on peut les faire converger. Merci de nous accueillir dans ce chemin coutumier, mais je viens avec une forme de déférence à votre égard, je vous le dis, de déférence et parfois d'admiration pour le tempérament qui est le vôtre. Vous êtes un roc, et oui, mais parfois il faut des rocs. Et c'est un marin qui vous dit ça.
Durant près de deux heures, Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet se sont donc entretenus avec Paul Nyaoutine. Et à l'issue de cette rencontre, les deux présidents se sont dit satisfaits.
On a bien travaillé, on a bien échangé. Et ça fait partie de la manière dont on souhaite écouter, partager, entendre les uns les autres. Et on fera une synthèse à l'issue de tout ça.
On est très contents d'avoir pu l'avoir. Oui. On voit tous les trois présidents de province aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est vraiment une journée consacrée à ces premières prises de contact. Et c'était important pour nous de venir voir le président Nyaoutine. Et on a eu un très bel échange. Donc c'était vraiment important. Et puis de faire cette cérémonie à Connay du 11 novembre, ça aussi, c'était un moment pour nous très émouvant.
Un premier échange avec le président de la province Nord positif, donc. Retour ensuite à Nouméa pour Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, qui doivent rencontrer ce soir la présidente de la province Sud, Sonia Bakès, et le président de la province des îles, Jacques Lallier. Depuis Koné, Eliana Colombo, RRB.
Merci Eliana. Et demain matin, je vous rappelle donc que le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale prononceront une allocution devant les élus du Congrès avant un temps de travail avec eux. Ils se rendront ensuite au Mont d'Orsu, dans la Navette Maritime, pour échanger avec les habitants et le maire Eddy Lecourieux avant de revenir à Nouméa pour une rencontre avec les Calédoniens à la mairie. Notez qu'en raison de cette visite, la mairie de Nouméa a pris un arrêté réglementant provisoirement le stationnement sur certaines rues autour du Congrès pour demain et mercredi. Des restrictions qui concernent principalement le stationnement sur le boulevard Vauban et rue de la République.
RRB, il est 17h55.
Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet ont donc assisté à la cérémonie du 11 novembre à Nouméa et à Koné. Deux autres cérémonies étaient organisées aujourd'hui, notamment à 16h au Mont d'Or, où la cérémonie était présidée par le maire Eddy Lecourieux en présence du haut-commissaire Louis Lefranc. Le maire du Mont d'Or a rappelé à cette occasion que de petits conflits peuvent vite naître des guerres.
Bien évidemment, on est obligé de penser à nos vieux qui sont partis à la guerre, qui sont partis défendre la liberté. Enfin, c'est ce qu'on dit toujours, mais il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois, on a subi sur notre territoire, sur notre sol, on a subi des outrages, on a subi des agressions. Et quel conflit soit en Europe... ou qu'il soit sur notre territoire, il en est toujours que plus dur, plus amer, et c'est malheureux. Et effectivement, c'est l'occasion de nous dire, n'oublions jamais, que de petites choses au départ peuvent sortir de grands conflits et décimer à ce moment-là des populations qui, elles, ne demandent qu'à vivre ensemble.
Eddy Lecourieux, le maire du Mont d'Or. Une autre cérémonie de commémoration du 11 novembre s'est tenue à 17h à Dumbéa. Dans le reste de l'actualité en Calédonie, 7 personnes placées sous contrôle judiciaire vendredi sur réquisition du parquet. Elles avaient été déférées à la justice pour menace de mort sous condition au préjudice de la famille Metzdorf résidente à Poya, Elisabeth Noir.
Le parquet avait ordonné vendredi soir le déferrement des 7 personnes mises en cause qui appartiennent au clan Weko. Le 19 octobre dernier, elles avaient remis à la gendarmerie de Poya un document intitulé « Acte légitime de proclamation de pleine souveraineté, clanique, mythique et totémique » à l'encontre de messieurs Claude Metzdorf et Nicolas Metzdorf pour occupation sans droit ni titre de leur propriété à Poya. Il était également précisé que cette revendication foncière prenait effet au 11 novembre 2024 et dans une vidéo sur Facebook, les signataires de ce document formulaient des menaces de mort. Cette action laissait craindre le déplacement des protagonistes sur les propriétés concernées, notamment à partir du 11 novembre, avec le parquet. Les 7 individus ont donc été placés en garde à vue vendredi et lors de leur audition, ils ont déclaré qu'ils n'avaient pas l'intention de s'en prendre à la famille Metzdorf et que leur message s'adressait aux esprits. Le juge a décidé de les placer sous contrôle judiciaire conformément aux réquisitions du parquet, avec interdiction de tout contact avec les victimes, interdiction de paraître aux abords et sur les propriétés des Metzdorf, ainsi que sur la piste de roulage reliant la RT1 et le bord de mer, et enfin interdiction de détenir ou de porter une arme. Ces 7 personnes seront jugées en correctionnel le 24 avril 2025. Le procureur de la République qui signe ce communiqué ajoute, et je cite, que dans un état de droit, ces comportements intimidants et menaçants destinés à troubler la tranquillité d'autrui ne sauraient être tolérés. Il précise que l'enquête a été menée par la gendarmerie avec toute la réactivité nécessaire et que le parquet a eu pour objectif, dans sa décision de poursuite, de faire cesser les agissements délictueux reprochés.
Deux incendies en cours, pour l'instant sous surveillance. Le premier au Mont Monet derrière les Coguilles, qui ne s'est pas étendu, heureusement grâce à la pluie. Il n'évolue pas et reste surveillé par des drones. Les autorités lancent un appel à la vigilance pour les randonneurs et les chasseurs qui sont peut-être à l'origine de ce feu de brousse qui a détruit 2 à 3 hectares de végétation. En province nord, à Kouaoua, des habitations de la tribu de Mébara ne sont plus menacées par l'incendie qui s'était déclaré ce matin et qui est difficilement accessible pour les pompiers. Il reste donc en évolution libre. 10 hectares sont déjà partis en fumée. Le retour des bateaux de croisière. Hier, le Ovation of the Seas a fait une escale d'une journée à Nouméa avec 4743 passagers. C'est forcément une bonne nouvelle, notamment pour les restaurateurs des quais ferries, même si les retours sont un peu différents selon les enseignes et ce qu'elles proposent. Bon bilan chez Mr Coffee, plus mitigé dans le bar à salade Blend.
Ils sont arrivés doucement mais sûrement et ça a été un réel plaisir de les accueillir. Ils étaient extrêmement souriants, on a passé une journée super. Et on se croyait nous-mêmes en vacances, donc le top. On a doublé le chiffre d'un dimanche normal, donc tout bénef.
Un peu plus mitigé, parce que c'est vrai qu'en règle générale, quand ils viennent, donc ils ont déjà consommé sur le bateau ou dans d'autres restaurants qui ont des partenariats. Donc nous, c'est vrai qu'ils arrivent, ils recherchent plus des boissons fraîches et quelques sandwichs parce qu'ils doivent avoir des excursions toute la journée. Donc c'est vraiment un passage assez rapide.
Le prochain navire de croisière, le Westerdam, accostera jeudi à Nouméa. Deux autres navires sont programmés ensuite pour les 17 et 19 novembre. Une reprise du trafic maritime de tourisme sur lequel nous reviendrons demain matin à 7h30. Notre invitée sera en effet Jennifer Sigaud. L'ancienne présidente de la Chambre de commerce et d'industrie est aujourd'hui chargée des croisières à la CCI. Et puis autre rendez-vous demain sur Radio Rythme Bleu, le magazine Citoyen à midi, dans lequel nous parlerons cette semaine des jobs d'été. Ce dispositif pour les jeunes reste un succès, même si le contexte cette année est moins propice à la recherche d'un travail estival pour les jeunes. Nous en parlerons avec nos quatre invités. Christelle Gans, chargée du programme Jobs d'été à la direction Emploi et logement de la province Sud. Nathalie de Brogada, responsable de l'espace jeune. Olivier Nicolas, le directeur de Bruno Vallée. Et Samira Ogui, une jeune femme qui postule pour un job d'été. Il est 18h01. En attendant, c'est une pause et on se retrouve pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
Factory Store, votre magasin de vêtements, chaussures et accessoires de marque à petit prix. Adidas, Nike, Puma, Reebok, Asics, Fila, Champion, America. Pour dénicher les meilleures affaires, rendez-vous dès à présent dans vos magasins Factory Store au 4e kilomètre ou à Koné. Factory Store, les grandes marques à prix record.
Urbanisme et construction durable, perspective des matériaux biosourcés, valoriser ressources et déchets du BTP, métiers d'avenir et nouvelles technologies. Rendez-vous mardi 19 novembre 2024 à 7h30 au Théâtre de Lille pour la Biennale de la Construction 2024. Entrée libre. Infos et inscriptions sur rcnc.gouv.nc, Facebook et LinkedIn, Biennale de la Construction Nouvelle-Calédonie.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Jean-François Baudin.
Oui, avec l'actualité en métropole où sera commémoré la nuit prochaine le 11 novembre 1918. Ce jour-là, la signature d'un armistice a permis de mettre fin aux combats de la Grande Guerre qui ont fait au moins 20 millions de morts en 4 ans. La cérémonie sera présidée par Emmanuel Macron en présence du Premier ministre britannique Keir Starmer, invité de ce 106e anniversaire. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Après un entretien prévu à 9h30, Emmanuel Macron et Keir Starmer prendront la direction des Champs-Élysées. Alors que l'on célèbre les 120 ans de l'entente cordiale, le président français et le Premier ministre britannique déposeront des gerbes devant les statues de Georges Clemenceau et de Winston Churchill. Ils se rendront ensuite place de l'Étoile au pied de l'Arc de Triomphe. Emmanuel Macron ravivera la flamme du soldat inconnu et saluera d'anciens combattants et des familles de militaires morts pour la France. Une cérémonie traditionnelle à laquelle participera également Michel Barnier. Le Premier ministre est ensuite attendu dans l'après-midi au musée de la Grande Guerre à Meaux en Seine-et-Marne. Il participera à l'inauguration d'une tranchée reconstituée, longue de 110 mètres. Elle permettra au public de se plonger dans le monde des poilus. Selon son entourage, le locataire de Matignon veut profiter de ce déplacement pour s'adresser à la jeunesse et souligner l'importance de la transmission de l'histoire.
Un match sous haute tension, France-Israël en football, c'est vendredi matin prochain pour nous, match comptant pour la Ligue des Nations, auquel assistera Emmanuel Macron. Pour éviter les scènes vues le week-end dernier à Amsterdam, lorsque des supporters néerlandais ont poursuivi des supporters israéliens dans la rue, un très important dispositif de sécurité est prévu et rien n'a été laissé au hasard. Baptiste Morin.
À l'intérieur du stade, à l'extérieur et jusque dans les transports en commun, les 26 unités de CRS et de gendarmes mobiles seront déployées. Objectif, sécuriser un maximum en contrôlant tous les spectateurs pour qui une pièce d'identité sera obligatoire. Pour éviter tout incident, les drapeaux palestiniens seront interdits et les commerces situés à proximité du stade devront fermer à partir de 15h30. Une sécurité inédite qui sera scrutée de près par Bruno Retailleau, lui qui pourrait se déplacer au poste de contrôle du Stade de France pour suivre en temps réel la situation. Le ministre de l'Intérieur doit recevoir aujourd'hui les derniers détails du dispositif. Et dans le même temps, les joueurs de l'équipe d'Israël arriveront en France cet après-midi, protégés par le RAID. Ces derniers resteront dans le Val d'Oise tout au long de leur séjour. Plusieurs entraînements tenus secrets sont notamment programmés, des séances dans un gymnase ultra sécurisé. Un dispositif de sécurité inédit donc jusqu'à jeudi et ce match France-Israël qui pour le moment n'attire pas les foules. Seuls 20 000 billets ont été vendus sur les 80 000 mis en vente.
Cela fait 400 jours que le Hamas a mené son attaque terroriste en Israël, 400 jours que des otages sont aux mains des islamistes. Une cérémonie en leur hommage était organisée à Paris, place du Palais Royal, la nuit dernière pour nous. Elle a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Les organisateurs avaient choisi de faire passer 400 affiches noires symbolisant les 400 jours de captivité. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à cette cérémonie.
J'essaye de garder l'espoir, mais je me mets surtout à la place de leur famille, quoi. Je trouve ça déjà tellement dur à mon niveau, mais pour les familles, ça doit être horrible.
Tous les jours, on attend, on espère, on lit des informations sur un possible accord pour une libération des otages. Tous les jours, on lit ensuite que c'était refusé.
Cette situation a une répercussion au-delà des frontières d'Israël. On le vit également en France, mais on l'a vu dernièrement d'une manière tragique, jeudi soir, pendant le match de l'Ajax Amsterdam, où on s'est cru un petit peu en 40. Et c'est effrayant.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. L'actualité à l'étranger, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé. C'était jeudi dernier. Le président américain élu la semaine dernière, qui prendra ses fonctions en janvier prochain, a finalement échangé avec le président russe. Et alors que la Russie semble vouloir intensifier son offensive en Ukraine, Donald Trump aurait demandé de la retenue à Vladimir Poutine. Aviva Fried est la correspondante d'Europe 1 à Washington.
Au cours de cette conversation, Donald Trump aurait affirmé vouloir bientôt une résolution de la guerre en demandant au président russe de ne pas provoquer d'escalade en Ukraine. Il en aurait profité pour lui rappeler que les États-Unis disposent d'une importante présence militaire en Europe. Une fermeté qui peut surprendre de la part de Donald Trump. Le futur président estime que son pays donne trop d'argent à l'Ukraine et en privé, il se serait dit disposé à soutenir un accord qui donnerait à la Russie le contrôle de territoires pris à l'Ukraine. Donald Trump souffle donc le chaud et le froid. Mais Vladimir Poutine, lui, semble plutôt confiant.
Ce qu'il a dit sur la volonté d'améliorer les relations avec la Russie et de résoudre le conflit ukrainien, cela mérite d'y porter attention.
L'Union européenne compte bien ne pas rester à l'écart de possibles négociations et c'est l'Allemagne qui semble être à la manœuvre. Le chancelier allemand a lui aussi discuté avec Donald Trump et s'est dit prêt à travailler avec lui pour un retour de la paix en Europe.
Il est 18h07, il nous reste à parler sport après la dernière pause et nous verrons que Jules Guépy, 18 ans, est devenu champion de Calédonie de golf.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange ? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Ah, ces assurances ! J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, Agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, Agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal, et c'est du sport, Jean-François Baudin.
Oui, avec du golf et le clap de fin sur les championnats de Calédonie qui se sont déroulés pendant 3 jours. Et c'est Jules Guépy qui a décroché le titre, Michael Juneski.
Le parcours de Tina s'est montré impitoyable durant 3 jours pour les engager. C'est Jules Guépy qui a donc le mieux tiré son épingle du jeu en gardant la tête tout au long de l'épreuve, grâce notamment à une carte rendue à moins 5 le samedi. À 18 ans, il décroche le titre de champion de Calédonie 2024.
Ça s'est très bien passé dans l'ensemble. J'ai fait une très bonne première partie, donc ce qui m'a permis de prendre de l'avance sur la plupart des bons joueurs. Et ensuite, j'ai déroulé mon jeu pendant les 2 autres jours. Et voilà, je suis très content d'avoir fini premier de ce tournoi. Donc voilà, c'est que du plaisir. Et maintenant, on va profiter ce soir avec la famille.
C'était quoi le plus dur à gérer durant ces 3 jours ?
Alors forcément, le plus dur pour tout le monde, pour tous les joueurs, je pense, ça a été le vent. Le vent et le terrain très sec. Il fallait être très calme parce que les mauvais coups arrivent très vite et plus les mauvais rebonds, etc., les malchances. Donc il fallait être vraiment très calme pendant 3 jours. Il fallait prendre son temps et c'est ce que j'ai réussi à faire. Même si ça s'est pas très bien passé aujourd'hui et hier, je suis quand même rester concentré. Et puis voilà, ce qui m'amène à la victoire. Donc je suis très content.
Jules Guépy du club de la Wingui qui s'impose donc avec 3 coups d'avance sur Pierre Le Boulanger de Tina et le tenant du titre, Guillaume Castagnier, également de la Wingui, pour compléter le podium. La tenue de ces championnats était, quoi qu'il en soit, après une saison largement perturbée, une grande satisfaction pour tous les joueurs et pour Morgane Dufour, l'organisateur.
C'était l'objectif de la Ligue de pouvoir faire une belle compétition avant la fin de l'année. Voilà, on a tout mis en œuvre pour essayer d'offrir un beau parcours et un beau spectacle pour tout le monde. Voilà, ça n'a pas été facile puisqu'ils ont eu beaucoup de vent. En novembre, les terrains sont secs. Voilà, on a fait le golf de Tina a fait un effort pour revenir à niveau sur les greens. Donc voilà, au final, on a eu quand même une belle épreuve. Des beaux scores, un beau vainqueur, mais une lutte acharnée, ça a été compliqué, donc bravo à eux.
Jean-Louis Guépy a terminé 5e du classement overall et 1er chez les pros à 13 coups de son fils, le champion 2024. La meilleure féminine en élite est Lola Alibo du club de Tina. Et durant 3 jours, une centaine de joueuses et de joueurs étaient présents sur les greens de Tina pour ces championnats de Calédonie de golf 2024.
Le sport sur la scène internationale avec du tennis et les Masters de Turin, le rendez-vous final de cette saison sur le circuit ATP. Aujourd'hui, l'Américain Taylor Fritz a battu le Russe Daniil Medvedev 6-4, 6-3. L'Italien Yannick Sinner s'est imposé sur l'Australien Alex de Minaur 6-3, 6-4. Demain, dans le deuxième groupe, l'Espagnol Carlos Alcaraz retrouvera le Norvégien Casper Ruud, tandis que l'Allemand Alexander Zverev sera opposé au Russe Andrei Rublev. Et puis en voile, c'est parti pour le Vendée Globe 2024. Le Tour du Monde à la voile en solitaire, sans escale et sans assistante. C'est la 10e édition de cette course qui réunit 40 participants cette année qui ont quitté les Sables d'Olonne la nuit dernière pour une course de 45 000 km. Les plus rapides d'entre eux vont rester plus de 2 mois en mer. La flotte est encore très compacte, quelques heures seulement après le départ. Elle est menée par Sébastien Simon sur Groupe Dubreuil, devant Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance et Justine Métro sur Teamworks Team SNEF. Il est 18h11, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, Nico.
Alors, cette nuit, sur la côte est, les Loyautés et la pointe sud, les passages nuageux seront parfois accompagnés d'averses. Ailleurs, le ciel sera bien étoilé. Le vent de sud-est mollira progressivement sur l'ouest, atteignant 5 à 10 nœuds. Ailleurs, il faiblira autour de 15 nœuds. Les températures minimales seront comprises entre 18 degrés sur la côte ouest à 24 degrés sur la pointe nord. Demain matin, le soleil dominera sur l'ouest. Sur les autres régions, le ciel sera souvent nuageux et les passages nuageux qui circulent déposeront des averses éparses. L'alizé d'est-sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Il se renforcera autour de 20 nœuds sur la région de Nouméa en fin de matinée. Sur l'ouest, il sera faible en début de journée, puis s'installera au sud-est entre 10 et 15 nœuds, Jean-François.